les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Brillant orateur et juriste de formation comme un grand nombre de chefs de file de la Révolution française, Vergniaud en fut un des acteurs importants et l'une des grandes figures du parti girondin. D'abord favorable, comme tout le monde, à une monarchie constitutionnelle, il se radicalisa. C'est lui qui prononça la suspension du roi en 1792 et le verdict qui condamna le roi à mort. Bien que méconnu aujourd'hui, sa pensée politique est à redécouvrir. La seule émission qui lui fut consacrée est bien courte, à peine plus d'une dizaine de minutes, et elle date de 1953.
Le 31 mai 1753, il y a 200 ans, naissait à Limoges Pierre-Victorin Vergniaud, qui ne devait pas seulement être un des plus grands orateurs de la Révolution, mais momentanément le porte-parole de la Révolution. L'intendant de la province, Turgot, l'ayant remarqué au collège de sa ville natale, obtint pour lui une bourse à Paris au collège Duplessis. Il alla faire à Bordeaux ses études de droit. En 1781, il y devenait avocat au Parlement. Admirateur enthousiaste de Voltaire, de Montesquieu, de Mably et de Rousseau, il s'embrigadait dans le parti des philosophes, dont il tenta plus tard d'appliquer les principes en politique. Envoyé en 1791 à la législative, il s'y ralliait à ce groupe de députés appelé ultérieurement Girondins, parce que les principaux d'entre eux étaient des élus de la Gironde. Appartenant tous à la classe moyenne, lettrés, ils étaient enflammés d'une même ardeur pour la liberté, mais pour une liberté tempérée, de sorte qu'après s'être opposés d'abord aux contre-révolutionnaires, ils essayèrent de mettre un frein à la Révolution. À peine ont-ils pris séance qu'ils attaquent les émigrés. Le 25 octobre s'ouvre un large débat où Vergniaud, qui, dès le 6 octobre, s'était mis en vedette dans un discours où il demandait la suppression des mots « sire » et « majesté », se déchaîne contre les émigrés. Pour les simples particuliers, il ne réclame que la confiscation des biens. Mais il veut la mort pour les frères du roi. Et, invoquant, selon le goût du jour, l'exemple des anciens, on parle, dit-il, de la douleur profonde dont le roi sera pénétré. Brutus immola ses enfants criminels à sa patrie. L'éloquence, a écrit Chateaubriand, est un fruit des révolutions. Elle y croit spontanément et sans culture. Il y a beaucoup à critiquer dans ce jugement. Pour que l'éloquence politique existe, il faut évidemment que l'on puisse parler. Elle a donc existé sans révolution dans les républiques athéniennes et romaines. Étouffée en France par la monarchie absolue, elle s'est en effet ranimée à la révolution. Mais non sans culture. Les orateurs en ont presque trop, car on vient de le voir et on le verra encore. Ils font volontiers étalage des souvenirs de leurs humanités. Vergniaud, avocat comme la plupart de ses collègues, est un classique. Dans un intéressant opuscule sur l'art oratoire, Mario Roustan, un ancien ministre de l'Éducation nationale, dit de lui « Il compose ses discours comme un héros de titre livre, bâtit un plan bien divisé, développe ses paragraphes suivant les principes de l'école, se plaît dans les lieux communs et échauffe l'auditeur par son éloquence ample et ciceronienne. Elle se manifesta quand il fut élu président contre les anciens nobles, portant 15 siècles d'orgueil et de barbarie dans leurs armes féodales. Puis, le 5 juillet, lorsque chargé de rédiger l'adresse qui proclamait la patrie en danger, il apostropha rudement le roi. Ô roi, qui n'avait faim d'aimer la Constitution que pour qu'elle ne vous précipitât point du trône où vous aviez besoin de rester pour la détruire. Pensez-vous nous donner le change sur la cause de nos malheurs par l'artifice de vos excuses et l'audace de vos sophismes ? Il ne faut pas s'étonner qu'après la prise des Tuileries par le peuple, le 10 août, Vergniaud ait volontiers proclamé la déchéance de Louis XVI, en suppliant d'ailleurs, par mansuétude, la Commune de Paris d'épargner les Suisses qui avaient défendu le prince. C'est encore d'une voix vibrante que le 2 septembre, lorsque l'on a pris la chute de Longwy et de Verdun, il prêcha la levée en masse. Il faut piocher la fosse de nos ennemis, car chaque pas qu'ils font en avant pioche la nôtre. Malheureusement, si le péril national exaltait le patriotisme, il affola le peuple. On égorgea dans les prisons. Les massacres de septembre indignèrent Vergniaud et les Girondins, dont ils contribuèrent à modifier le comportement. Ils étaient la gauche de la législative, ils devinrent la droite de la Convention, qui se réunit le 21 septembre 1792. Sans doute, au début, votèrent-ils avec les montagnards l'abolition de la royauté, l'avènement de la République, que consacrait un nouveau calendrier. Mais les événements aggravèrent vite le désaccord entre les deux partis et le poussèrent au tragique. Vergniaud attaque la Commune. « Les Parisiens aveuglés, s'écria-t-il, osent se dire libres ? Ah, ils ne sont plus esclaves et vieux tyrans couronnés, mais ils le sont des hommes les plus vils, des plus détestables tyrans. » Et le 10 mars 1793, il disait encore « Un tyran de l'Antiquité avec un livre de fer, sur lequel il faisait étendre ses victimes, mutilant celles qui étaient plus grandes que le lit, disloquant douloureusement celles qui l'étaient moins, pour leur faire atteindre le niveau. Ce tyran aimait l'égalité. Ô peuple, voilà celle des scélérats qui te déchirent par leur fureur. » Vergniaud, poursuivant sa politique de modération, essaya de sauver le roi qu'il avait combattu, en demandant au cours de son procès qu'on en appelât au peuple. Sa proposition rejetée, il vota la mort avec les montagnards sans se réconcilier avec eux. Leur lutte avec les Girondins devient plus violente. Les Girondins veulent faire affecter à l'Assemblée une garde départementale, ce qui soulève Paris. Alors, tout en déclenchant des soulèvements dans la province, ils fulminent contre Paris. Buzot ne promet le bonheur à la France que si elle le détruit. Et Barbaroux, pour discréditer par une surenchère les idées avancées, ne craint pas de déclarer que, dans une république, il ne doit pas y avoir de capitale. Vergniaud, accusé, tient encore Robespierre en échec le 10 avril 1793, malgré les tribunes qui veulent l'empêcher de parler. « J'oserais répondre à M. Robespierre, dit-il, qui, par un roman perfide, artificieux, écrit dans le silence du cabinet, vient de provoquer de nouvelles discordes dans le sein de la Convention. J'oserais lui répondre sans méditation. Je n'ai pas, comme lui, besoin d'art. Il suffit de mon arme. Mais ses efforts héroïques ne le sauvent pas. Le 2 juin, proscrit avec 21 de ses collègues, il se laisse arrêter. La révolution est comme Saturne. Elle dévore ses enfants, crie-t-il devant le tribunal. Le 30 octobre, les Girondins sont condamnés. Le banquet qu'ils auraient organisé pendant leur dernière nuit n'est qu'une invention de Charles Nodier. Ils ne firent qu'un modeste repas, conservèrent une attitude très digne et moururent avec courage. Ces apprentis sorciers avaient risqué par leurs intrigues de ruiner la Révolution en prétendant réprimer ses excès. Mais la France a perdu en eux des hommes d'esprit distingué et de ferme caractère. Il faut regretter particulièrement la disparition prématurée de Vergniaud, orateur de talent et noble cœur. Il rêvait d'une révolution qui n'eût converti à ses doctrines les autres peuples que par le spectacle de son bonheur. Cette généreuse chimère doit imposer sa mémoire à notre respect.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 2 juin 1953. Vous pouvez l'écouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site franceculture.fr.